Un sermon numéro 291, prononcé le sabbat matin, 25 décembre 1859, par C.H. Spurgeon, à Exeter Hall, Strand.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Isaïe 9, 6.
À d'autres occasions j'ai expliqué la partie principale de ce verset, le gouvernement reposera sur ses épaules, son nom sera appelé merveilleux, conseiller, le Dieu puissant. Si Dieu m'épargne, à une occasion future, j'espère prendre les autres titres, le Père éternel, le Prince de la paix. Mais maintenant, ce matin, la partie qui retiendra notre attention est celle-ci, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La phrase est double, mais elle ne contient aucune tautologie. Le lecteur attentif découvrira bientôt une distinction, et ce n'est pas une distinction sans différence. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Comme Jésus-Christ est un enfant dans sa nature humaine, il est né, engendré du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il est aussi véritablement né, aussi certainement un enfant, que n'importe quel autre homme qui ait jamais vécu sur la face de la terre. Il est donc dans son humanité un enfant né. Mais comme Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'est pas né, mais donné, engendré de son Père d'avant tous les mondes, engendré et non fait, étant de la même substance que le Père. La doctrine de l'affiliation éternelle du Christ doit être reçue comme une vérité incontestable de notre sainte religion. Mais quant à l'explication de cela, personne ne devrait s'y aventurer, car il reste parmi les choses profondes de Dieu l'un de ces mystères solennels en effet, dans lesquels les anges n'osent pas regarder, ni ne désirent approfondir un mystère qui nous ne devons pas essayer de le comprendre, car il est totalement hors de la portée de tout être fini. Aussi bien un moucheron pourrait chercher à boire dans l'océan, comme une créature finie pour comprendre le Dieu éternel. Un Dieu que nous pourrions comprendre ne serait pas Dieu. Si nous pouvions le saisir, il ne pourrait pas être infini. Si nous pouvions le comprendre, alors n'était-il pas divin? Jésus-Christ donc, dis-je, en tant que Fils, ne nous est pas né, mais donné. Il est une bénédiction qui nous est accordée, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde. Il n'est pas né dans ce monde en tant que Fils de Dieu, mais il a été envoyé, ou a été donné, de sorte que vous percevez clairement que la distinction est suggestive et nous transmet beaucoup de bonnes vérités. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce matin, cependant, le principal objet de mon discours, et même le seul, est de faire ressortir la force de ces deux petits mots, à nous. Car vous vous apercevrez que c'est ici que réside toute la force du passage. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Les divisions de mon discours sont très simples. D'abord, est-ce le cas? Deuxièmement, s'il en est ainsi, quoi alors? Troisièmement, si ce n'est pas le cas, alors quoi? En premier lieu, est-ce tellement? Est-il vrai qu'un enfant nous est né, qu'un fils nous est donné? C'est un fait qu'un enfant est né. Là-dessus, je n'utilise aucun argument. Nous le recevons comme un fait, plus pleinement établi que tout autre fait dans l'histoire, que le Fils de Dieu s'est fait homme, est né à Bethléem, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. C'est aussi un fait qu'un fils est donné. Nous n'avons aucun doute là-dessus. L'infidèle peut contester, mais nous, professant être croyants dans l'Écriture, le recevons comme une vérité indéniable, que Dieu a donné son Fils unique pour être le sauveur des hommes. Mais la question est la suivante, cet enfant nous est-il né? Nous est-il donné? C'est la question de l'enquête anxieuse. Avons-nous un intérêt personnel pour l'enfant qui est né à Bethléem? Savons-nous qu'il est notre sauveur? Qu'il nous a apporté de bonnes nouvelles? Qu'il nous appartient, et que nous lui appartenons? Je dis que c'est une question d'enquête très grave et solennelle. C'est un fait très observable, que les meilleurs des hommes sont parfois troublés par des questions concernant leur propre intérêt pour Christ, tandis que les hommes qui ne sont jamais troublés du tout à ce sujet sont très souvent des trompeurs présomptueux, qui n'ont aucune part dans cette affaire. Matière. J'ai souvent observé que certaines des personnes dont je me sentais le plus sûr étaient celles-là même qui étaient les moins sûres d'elles-mêmes. Cela me rappelle l'histoire d'un homme pieux nommé Simon Brown, ancien ministre de la City de Londres. Il devint si extrêmement triste de cœur, si abattu d'esprit, qu'enfin il conçut l'idée que son âme était anéantie. C'était en vain de parler au bonhomme, on ne pouvait pas lui persuader qu'il avait une âme, mais tout le temps il prêchait, et priait, et travaillait, plus comme un homme qui avait deux âmes qu'aucune. Quand il prêchait, ses yeux versaient des flots abondants de larmes, et quand il priait, il y avait une ferveur divine et une prédominance céleste dans chaque requête. C'est maintenant le cas pour de nombreux chrétiens. Ils semblent être l'image même de la piété, leur vie est admirable et leur conversation céleste, mais pourtant ils pleurent toujours. C'est un point que j'ai hâte de savoir, cela provoque souvent une pensée anxieuse, est-ce que j'aime le Seigneur ou non? Suis-je salut ou ne suis-je pas? Ainsi arrive-t-il que le meilleur des hommes questionne tandis que le pire des hommes présume. Oui, j'ai vu les hommes sur la destinée éternelle dont j'ai eu de sérieuses questions, dont les incohérences dans la vie étaient palpables et flagrantes, qui ont bavardé sur leur portion sûre en Israël, et leur espoir infaillible, comme s'ils croyaient que les autres étaient aussi facilement dupés comme eux-mêmes. Or, quelle raison donnerons-nous à cette témérité? Apprenez-le à partir de cette illustration. Vous voyez un certain nombre d'hommes chevaucher le long d'une route étroite au bord de la mer. C'est un chemin très périlleux, car le chemin est accidenté et un énorme précipice délimite le sentier sur la gauche. Que le pied du cheval ne glisse qu'une seule fois, et il se précipite vers la destruction. Voyez avec quelle prudence les cavaliers voyagent, avec quel soin les chevaux placent leurs pieds. Mais observez-vous votre cavalier, à quelle vitesse il s'élance, comme s'il faisait une course d'obstacles avec Satan? Vous levez les mains dans une agonie de peur, tremblant de peur qu'à chaque instant le pied de son cheval ne glisse et qu'il ne s'effondre, et vous dites, pourquoi un cavalier s'y néglige? L'homme est un cavalier aveugle sur un cheval aveugle. Ils ne peuvent pas voir où ils sont. Ils pensent qu'il est sur une route sûre, et c'est donc qu'il roule si vite. Ou pour varier l'image, parfois, quand les gens dorment, ils se mettent à marcher et ils grimperont là où d'autres ne penseront pas à s'aventurer. Des hauteurs vertigineuses qui transformeraient notre cerveau leur semblent suffisamment sûres. Il y a donc beaucoup de somnambules spirituels parmi nous, qui pensent qu'ils sont éveillés. Mais ils ne le sont pas. Leur présomption même en s'aventurant au haut lieu de la confiance en soi, prouve qu'ils sont somnambules, pas éveillés, mais des hommes qui marchent et parlent dans leur sommeil. Il s'agit donc, dis-je, vraiment d'une question sérieuse avec tous les hommes qui auraient enfin raison, de savoir si cet enfant nous est né, et ce fils nous a été donné? Je vais maintenant vous aider à répondre à la question. 1. Si cet enfant qui se trouve maintenant devant les yeux de votre foi, enveloppé de l'ange dans la crèche de Bethléem, vous est né, mon auditeur, alors vous êtes né de nouveau. Car cet enfant ne vous est pas né à moins que vous ne soyez né de cet enfant. Tous ceux qui s'intéressent à Christ sont, dans la plénitude des temps, convertis, vivifiés et renouvelés par la grâce. Tous les rachetés ne sont pas encore convertis, mais ils le seront. Avant que l'heure de la mort n'arrive, leur nature sera changée, leurs péchés seront lavés, ils passeront de la mort à la vie. Si quelqu'un me dit que le Christ est son Rédempteur, bien qu'il n'ait jamais connu la régénération, cet homme dit ce qu'il ne sait pas, sa religion est vaine, et son espérance est une illusion. Seuls les hommes qui sont nés de nouveau peuvent revendiquer le bébé à Bethléem comme étant le leur. Mais, dit l'un, comment puis-je savoir si je suis né de nouveau ou non? Répondez aussi à cette question par une autre, y a-t-il eu un changement effectué par la grâce divine en vous? Vos amours sont-ils à l'opposé de ce qu'ils étaient? Détestez-vous maintenant les vaines choses que vous admiriez autrefois, et recherchez-vous cette perle précieuse que vous méprisiez autrefois? Votre cœur est-il complètement renouvelé dans son objet? Pouvez-vous dire que la tournure de votre désir a changé? Que ta face est version, et tes pieds mis sur le chemin de la grâce? Que tandis que votre cœur aspirait autrefois à de profonds courants de péché, il aspire maintenant à être saint? Et tandis que vous aimiez autrefois les plaisirs du monde, ils sont maintenant devenus pour vous comme de l'ivraie et de l'écume, car vous n'aimez que les plaisirs des choses célestes, et vous aspirez à en profiter davantage sur terre, afin que vous puissiez être prêt à en profiter. Une plénitude d'entre ci après? Êtes-vous renouvelé à l'intérieur? Car Marc, mon auditeur, la nouvelle naissance ne consiste pas à laver l'extérieur de la coupe et du plat, mais à nettoyer l'homme intérieur. C'est en vain que l'on dresse la pierre sur le sépulcre, la lave à l'extrême blanc et la décore des fleurs de la saison, le sépulcre lui-même doit être nettoyé. Les os du mort qui reposent dans ce charnier du cœur humain doivent être nettoyés. Non, il faut les faire vivre. Le cœur ne doit plus être un tombeau de mort, mais un temple de vie. En est-il ainsi de toi, mon auditeur? Rappelez-vous, vous pouvez être très différent à l'extérieur, mais si vous n'êtes pas changé à l'intérieur, cet enfant ne vous est pas né. Mais je pose une autre question. Bien que la matière principale de la régénération se trouve à l'intérieur, elle se manifeste pourtant à l'extérieur. Dis donc, y a-t-il eu un changement extérieur en toi? Pensez-vous que les autres qui vous regardent seraient obligés de dire, cet homme n'est plus ce qu'il était? Vos compagnons n'observent-ils pas un changement? Ne se sont-ils pas moqués de vous pour ce qu'ils pensent être votre hypocrisie, votre puritanisme, votre sévérité? Pensez-vous maintenant que si un ange vous suivait dans votre vie secrète, vous traquait jusqu'à votre placard et vous voyait à genoux, qu'il détecterait en vous quelque chose qu'il n'aurait jamais pu voir auparavant? Car, remarquez, mon cher auditeur, il doit y avoir un changement dans la vie extérieure, sinon il n'y a pas de changement à l'intérieur. En vain vous m'amenez à l'arbre, et dites que la nature de l'arbre est changée. Si je le vois encore produire des raisins sauvages, c'est encore une vigne sauvage. Et si je marque sur vous les pommes de Sodome et les raisins de Gomorre, vous êtes toujours un arbre maudit et condamné, malgré toutes vos expériences fantaisistes. La preuve du chrétien est dans le vivant. Pour les autres hommes, la preuve de notre conversion n'est pas ce que vous ressentez, mais ce que vous faites. Pour vous-même, vos sentiments peuvent être une preuve suffisante, mais pour le pasteur et les autres qui vous jugent, la marche vers l'extérieur est le guide principal. En même temps, Permettez-moi d'observer que la vie extérieure d'un homme peut être très semblable à celle d'un chrétien, et pourtant il peut n'y avoir aucune religion en lui. Avez-vous déjà vu deux jongleurs dans la rue avec des épées, faisant semblant de se battre l'un contre l'autre? Voyez comment ils se coupent, s'entaillent et s'entaillent les uns les autres, jusqu'à ce que vous ayez à moitié peur qu'un meurtre soit bientôt commis. Ils semblent être tellement sérieux que vous êtes à moitié dans l'esprit d'appeler la police pour les séparer. Voyez avec quelle violence l'un a porté un coup terrible à la tête de l'autre, que son camarade a habilement repoussé en gardant une garde au bon moment. Regardez-les juste une minute, et vous verrez que toutes ces coupures et coups viennent dans un ordre préétabli. Il n'y a pas de cœur dans le combat après tout. Ils ne se battent pas aussi brutalement qu'ils le feraient s'ils étaient de vrais ennemis. Ainsi, j'ai parfois vu un homme faire semblant d'être très en colère contre le péché. Mais regardez-le un peu, et vous verrez que ce n'est qu'un tour d'escrimeur. Il ne donne pas ses coupes dans le désordre, il n'y a pas de sérieux dans ses coups, ce n'est que du faux semblant, ce n'est qu'un mimétisme de mise en scène. Les tireurs, après avoir terminé leur exécution, se serrent la main et se partagent les cuivres que la foule béante leur a donnés. Et cet homme fait de même, il serre la main du diable en privé, et les deux trompeurs se partagent le butin. L'hypocrite et le diable sont après tout de très bons amis, et ils se réjouissent mutuellement de leur profit, le diable lorgnant parce qu'il a gagné l'âme du professeur, et l'hypocrite riant parce qu'il a gagné sa peau. Veillez donc à ce que votre vie extérieure ne soit pas une simple pièce de théâtre, mais que votre antagonisme contre le péché soit réel et intense, et que vous frappez à droite et à gauche, comme si vous vouliez tuer le monstre, et jeter ses membres au vent du ciel. Je vais juste poser une autre question. Si tu es né de nouveau, il y a autre chose pour t'éprouver. Non seulement votre moi intérieur est altéré, et votre moi extérieur aussi, mais la racine et le principe même de votre vie doivent devenir totalement nouveaux. Lorsque nous sommes dans le péché, nous vivons pour nous-mêmes, mais lorsque nous sommes renouvelés, nous vivons pour Dieu. Tant que nous ne sommes pas régénérés, notre principe est de rechercher notre propre plaisir, notre propre avancement, mais cet homme n'est pas vraiment né de nouveau qui ne vit dans un but bien différent de celui-ci. Changez les principes d'un homme, et vous changez ses sentiments, vous changez ses actions. Or, la grâce change les principes de l'homme. Il pose la hache à la racine de l'arbre. Il ne scie pas quelques gros membres, il ne cherche pas à en altérer la sève, mais il donne une nouvelle racine et nous plante dans un sol frais. Le moi le plus intime de l'homme, les rochers profonds de ses principes sur lesquels repose la couche arable de ses actions, l'âme de sa virilité est complètement changée, et il est une nouvelle créature en Christ. Mais, dit l'un, je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais naître de nouveau. Ah, pauvre créature, c'est parce que tu ne t'es jamais vu. As-tu déjà vu un homme dans le miroir de la parole de Dieu? Quel étrange monstre il est! Savez-vous que l'homme par nature a son cœur là où doivent être ses pieds, c'est-à-dire que son cœur est posé sur la terre, tandis qu'il doit la fouler sous ses pieds? Et mystère encore plus étrange, ses talons sont là où devrait être son cœur, c'est-à-dire qu'il donne des coups de pied contre le Dieu du ciel alors qu'il devrait mettre ses affections sur les choses d'en haut. L'homme par nature, quand il voit le plus clairement, ne regarde que vers le bas, ne peut voir que ce qui est au-dessous de lui, il ne peut pas voir les choses qui sont au-dessus. Et étrange de dire que la lumière du soleil du ciel l'aveugle, la lumière du ciel qu'il ne cherche pas. Il demande sa lumière dans les ténèbres. La terre est pour lui son paradis, et il voit des soleils dans ses mares boueuses et des étoiles dans sa crasse. C'est en fait un homme à l'envers. La chute a tellement ruiné notre nature, que la chose la plus monstrueuse sur la face de la terre est un homme déchu. Les anciens peignaient des griffons, des dragons, des chimères et toutes sortes de choses hideuses, mais si une main habile pouvait peindre l'homme avec précision, aucun de nous ne regarderait l'image, car c'est un spectacle que personne n'a jamais vu sauf les perdus en enfer, et c'est une partie de leur douleur intolérable, qu'ils sont obligés de toujours se regarder eux-mêmes. Maintenant, alors, ne voyez pas que vous devez naître de nouveau, et à moins que vous ne le soyez, cet enfant ne vous est pas né. 2. Mais j'avance, si cet enfant vous est né, vous êtes un enfant, et la question se pose, êtes-vous ainsi? L'homme grandit naturellement de l'enfance à l'âge adulte, dans la grâce, les hommes passent de l'âge adulte à l'enfance, et plus nous nous rapprochons de la vraie enfance, plus nous nous rapprochons de l'image du Christ. Car Christ n'a-t-il pas été appelé « un enfant », même après être monté au ciel? Ton saint enfant Jésus. Frères et sœurs, pouvez-vous dire que vous êtes devenus des enfants? Prenez-vous la parole de Dieu telle qu'elle est, simplement parce que votre Père Céleste le dit? Vous contentez-vous de croire aux mystères sans exiger qu'on les explique? Êtes-vous prêt à vous asseoir dans la classe des nourrissons et à être un petit? Êtes-vous prêt à vous accrocher à la poitrine de l'Église et à sucer le lait pur de la parole, sans jamais remettre en question un seul instant ce que votre divin Seigneur révèle, mais en le croyant de sa propre autorité, que cela semble être au-dessus de la raison, ou au-dessous de la raison, ou même contraire à la raison? Maintenant, À moins que vous ne vous convertissiez et deveniez comme de petits enfants, cet enfant ne vous est pas né. À moins que comme un enfant vous ne soyez humble, docile, obéissant, satisfait de la volonté de votre Père et disposé à tout lui attribuer, il y a une grave question à savoir si cet enfant vous est né. Mais quel spectacle agréable de voir un homme converti et transformé en un petit enfant. Plusieurs fois, mon cœur a sauté de joie, quand j'ai vu un infidèle géant qui avait l'habitude de raisonner contre Christ, qui n'avait pas un mot dans son dictionnaire assez mauvais pour que le peuple de Christ soit venu par la grâce divine pour croire à l'Évangile. Cet homme s'assied et pleure, sans la pleine puissance du salut et dès lors tombe tous ses questionnements deviennent l'inverse de ce qu'il était. Il se croit plus méchant que le plus méchant des croyants. Il se contente de faire le travail le plus vil pour l'Église du Christ, et prend sa place non pas avec Locke ou Newton, comme un puissant philosophe chrétien mais avec Marie comme une simple apprenante, assise aux pieds de Jésus, pour entendre et apprendre de lui. Si vous n'êtes pas des enfants, alors cet enfant ne vous est pas né. 3. Et maintenant, prenons la deuxième phrase et posons une question ou deux à ce sujet. Ce fils nous est-il donné? Je m'arrête une minute pour implorer votre attention personnelle. J'essaie, si je puis me permettre, de prêcher pour que je vous fasse tous vous remettre en question. Je vous prie de ne laisser aucun de vous s'exempter de l'épreuve, mais que chacun se demande s'il est vrai qu'un fils m'est donné. Maintenant, si ce fils vous est donné, vous êtes vous-même un fils. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Le Christ s'est fait fils afin d'être en toute chose semblable à ses frères. Le Fils de Dieu n'est pas à moi pour jouir, aimer, se délecter, à moins que je ne sois aussi un fils de Dieu. Maintenant, mon auditeur, avez-vous une crainte de Dieu devant vos yeux, une crainte filiale, une crainte qu'un enfant a de peur d'affliger son parent? Dis, as-tu l'amour d'un enfant pour Dieu? Lui faites-vous confiance en tant que père, pourvoyeur et ami? Avez-vous dans votre poitrine, l'esprit d'adoption par lequel nous crions, « Abba, Père » Y a-t-il des moments avec vous où, à genoux, vous pouvez dire, « Mon Père et mon Dieu » L'Esprit rend-il témoignage à votre esprit que vous êtes né de Dieu? Et tandis que ce témoignage naît, votre cœur s'envole-t-il vers votre Père et vers votre Dieu, en extase de délices pour étreindre celui qui jadis vous a étreint dans l'alliance de son amour, dans les bras de sa grâce efficace? Maintenant, remarque mon auditeur, si tu ne jouis pas parfois de l'esprit d'adoption, si tu n'es pas un fils ou une fille de Sion, alors ne te trompe pas toi-même, ce fils ne t'est pas donné. 4. Et, ensuite, le mettre sous une autre forme. Si un fils nous est donné, alors nous sommes donnés au fils. Maintenant, que dites-vous à cette question aussi? Êtes-vous abandonné à Christ? Avez-vous l'impression de n'avoir rien sur terre pour quoi vivre que de le glorifier? Pouvez-vous dire dans votre cœur, grand Dieu, si je ne me trompe pas, je suis entièrement à toi? Êtes-vous prêt aujourd'hui à réécrire votre vœu de consécration? Peux-tu dire, prends-moi, tout ce que je suis et tout ce que j'ai sera à toi pour toujours. Entièrement à toi. Vous n'êtes pas à vous, vous êtes acheté à un prix. Et si ce Fils de Dieu vous est donné, vous vous serez entièrement consacré à lui, et vous sentirez que son honneur est l'objet de votre vie, que sa gloire est le seul grand désir de votre esprit haletant. Maintenant est-ce ainsi, mon auditeur? Posez-vous la question, je t'en prie, et ne te trompe pas dans la réponse. Je vais juste répéter les quatre preuves différentes à nouveau. Si un enfant m'est né, alors je suis né de nouveau, et, d'ailleurs, je suis maintenant par suite de cette nouvelle naissance, un enfant. Si, encore une fois, un fils m'a été donné, alors je suis un fils, et de nouveau je suis donné à ce fils qui m'est donné. J'ai essayé de mettre ces tests de la manière que le texte les suggérerait. Je vous prie de les ramener à la maison avec vous. Si vous ne vous souvenez pas des paroles, rappelez-vous cependant de vous sonder vous-même et de voir, mes auditeurs, si vous se peut dire, ce fils m'a été donné. Car, en effet, si Christ n'est pas mon Christ, il me vaut peu. Si je ne puis dire qu'il m'a aimé et s'est donné pour moi, à quoi sert tout le mérite de sa justice, ou toute la plénitude de son expiation? Le pain dans le magasin est assez bien, mais si j'ai faim et que je ne peux pas en avoir, je meurs de faim bien que les greniers soient pleins. L'eau de la rivière est assez bonne mais si je suis dans un désert et que je ne peux pas atteindre le ruisseau, si je peux l'entendre au loin et que je me couche encore pour mourir de soif, du murmure du ruisseau ou du courant de la rivière, aide à me piquer, alors que je meurs dans un sombre désespoir. Mieux vaut pour vous, mes auditeurs, avoir péri comme des Hottentotes, être descendus dans vos tombes comme des habitants d'une terre obscure, que de vivre là où le nom du Christ est continuellement chanté et où sa gloire est exaltée, et pourtant de descendre à vos tombeaux sans intérêt pour lui, non béni par son évangile, non lavé dans son sang, non vêtu de sa robe de justice. Que Dieu vous aide, afin que vous soyez bénis en lui et que vous chantiez avec douceur « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Cela m'amène à ma deuxième tête, sur laquelle je serai bref. Est-ce ainsi, si c'est le cas, et alors? S'il en est ainsi, pourquoi suis-je douteux aujourd'hui? Pourquoi mon esprit s'interroge-t-il, Pourquoi est-ce que je ne réalise pas le fait? Mon auditeur, si le Fils t'est donné, comment se fait-il que tu demandes aujourd'hui si tu es à Christ ou non? Pourquoi ne travailles-tu pas à assurer ta vocation et ton élection? Pourquoi t'attardes-tu dans les plaines du doute? Lève-toi, monte jusqu'aux hautes montagnes de la confiance, et ne te repose jamais jusqu'à ce que tu puisses dire sans crainte que tu te trompes, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que j'ai engagé envers lui. » Il se peut que j'ai ici un grand nombre de personnes pour qui il est question d'incertitude quant à savoir si Christ est à eux ou non. Oh, mes chers auditeurs, ne vous contentez pas de savoir avec certitude que Christ est à vous et que vous êtes à Christ. Supposons que vous voyiez dans le journal de demain, bien que, soit dit en passant, si vous croyez quelque chose que vous y voyez, vous vous tromperiez probablement, mais supposons que vous voyiez une notification qu'un homme riche vous avait laissé un immense domaine. Supposons qu'en le lisant, vous saviez bien que la personne mentionnée était un parent à vous, et que c'était probablement vrai. Peut-être vous êtes-vous préparé demain pour une réunion de famille, et vous attendez que frère Jean et sœur Marie aient leur petit dîner avec vous. Mais je me demande beaucoup si vous ne seriez pas loin de la tête de table pour aller vérifier si c'était vraiment le cas. Oh, vous pourriez dire, je suis sûr que je devrais profiter de mon dîner de Noël d'autant mieux si j'étais tout à fait sûr de cette question, et toute la journée, si vous n'y alliez pas, vous seriez sur la pointe des pieds, vous seriez, pour ainsi dire, assis sur des épingles et des aiguilles jusqu'à ce que vous sachiez si c'était le fait ou non. Or, il y a aujourd'hui une proclamation, et elle est vraie aussi, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. La question avec vous est de savoir s'il vous a sauvé et si vous vous intéressez à lui. Je vous en supplie, ne donnez pas de sommeil à vos yeux, et aucun sommeil à vos paupières, jusqu'à ce que vous ayez lu votre titre clair pour les demeures dans les cieux. Quel homme, votre destinée éternelle sera-t-elle pour vous incertaine? Quoi, le ciel ou l'enfer sont-ils impliqués dans cette affaire, et vous reposerez-vous jusqu'à ce que vous sachiez lequel d'entre eux sera votre part éternelle? Êtes-vous content alors qu'il s'agit de savoir si Dieu vous aime ou s'il est en colère contre vous? Pouvez-vous être facile pendant que vous restez dans le doute quant à savoir si vous êtes condamné dans le péché, ou justifié par la foi qui est en Jésus-Christ? Lève-toi, mec, je t'en supplie par le Dieu vivant et par la sécurité de ton âme, lève-toi et lis les annales. Cherche et regarde, et essaie de te tester, pour voir s'il en est ainsi ou non. Car s'il en est ainsi, pourquoi ne le saurions-nous pas? Si le Fils m'est donné, pourquoi n'en serais-je pas sûr? Si l'enfant m'est né, pourquoi ne le saurais-je pas avec certitude, que je peux même maintenant vivre dans la jouissance de mon privilège, un privilège dont je ne connaîtrai jamais pleinement la valeur, jusqu'à ce que j'arrive à gloire? Encore une fois, s'il en est ainsi, une autre question. Pourquoi sommes-nous tristes? Je regarde en ce moment des visages qui semblent tout à l'opposé de la tristesse, mais peut-être que le sourire couvre un cœur douloureux. Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous tristes ce matin, si un enfant nous est né, si un fils nous est donné? Écoutez, écoutez le cri. C'est « récolte à la maison, récolte à la maison ». Voyez les jeunes filles danser et les jeunes gens s'amuser. Et pourquoi cette gaieté? Parce qu'ils emmagasinent les précieux fruits de la terre, ils rassemblent dans leur grenier du blé qui sera bientôt consommé. Et quoi, frères et sœurs, avons-nous le pain qui dure jusqu'à la vie éternelle et sommes-nous malheureux? Le mondain se réjouit-il quand son maïs s'est augmenté? Et d'où ne nous réjouissons-nous pas lorsque un enfant nous est né, et un fils nous est donné? Écoute, là-bas, que signifie le tir des canons de la tour? Pourquoi tout ce tintement de cloches dans les clochers des églises, comme si tout Londres était fou de joie? Il y a un prince né, donc il y a ce salut, et donc les cloches sonnent. Ah, chrétiens, sonnez les cloches de vos cœurs, fatiguez le salut de vos chants les plus joyeux, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Danse, ô mon cœur, et fais retentir des carillons de joie. Les gouttes de sang dans mes veines dansent chacun de vous. Oh, tous mes nerfs deviennent des cordes de harpe, et que la gratitude te touche avec des doigts angéliques. Et toi, ma langue, crie à sa louange qui t'a dit, un enfant t'est né, un fils t'est donné. Essuyez cette larme, viens, arrête ce soupir. Chut, tu murmures, qu'importe ta pauvreté, à toi est né un enfant. Qu'est-ce qui compte ta maladie? Un fils vous est donné. Qu'importe ton péché, car cet enfant ôtera le péché, et ce fils te lavera et te rendra apte au ciel. Je dis, s'il en est ainsi. Élevez le cœur, élevez la voix. Réjouis-toi à haute voix, vous les saints, réjouissez-vous. Mais, encore une fois, s'il en est ainsi, et alors? Pourquoi nos cœurs sont-ils si froids? Et pourquoi faisons-nous si peu pour celui qui a tant fait pour nous? Jésus, es-tu à moi? Suis-je sauvé? Comment se fait-il que je t'aime si peu? Pourquoi quand je prêche je ne suis pas plus sérieux, et quand je prie je ne suis pas plus intensément fervent? Comment se fait-il que nous donnions si peu au Christ qui s'est donné pour nous? Comment se fait-il que nous servions si tristement celui qui nous a si parfaitement servi? Il se consacra tout entier. Comment se fait-il que notre consécration soit entachée et partielle? Nous sacrifions continuellement à nous-mêmes et non à lui? Ô frère bien-aimé, Abandonnez-vous ce matin. Qu'as-tu au monde ? Oh, dit l'un, je n'ai rien. Je suis pauvre et sans le sou, et presque sans abri. Donne-toi au Christ. Vous avez entendu l'histoire des élèves d'un philosophe grec. Un certain jour, il était d'usage de faire un cadeau au philosophe. L'un est venu et lui a donné de l'or. Un autre n'a pas pu lui apporter d'or mais lui a apporté de l'argent. L'un lui apporta une robe, et un autre des mets délicats pour la nourriture. Mais l'un d'eux s'est approché et a dit « Oh, Solon, je suis pauvre, je n'ai rien à te donner, mais pourtant je te donnerai quelque chose de mieux que tout ceci ont donné, je te donne moi-même. Maintenant, si vous avez de l'or et de l'argent, si vous avez quelque chose des biens de ce monde, donnez dans votre mesure à Christ, mais prends garde avant tout de te donner à lui, et que ton cri soit à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je ne t'aime pas, mon très cher Seigneur ? Oh, cherche mon cœur et vois, et éteins chaque idole maudite, qui ose rivaliser avec toi. Ne t'aime-je pas de mon âme ? Alors laisse-moi rien aimer, mort soit mon cœur à toute joie. Quand Jésus ne peut pas bouger, eh bien, maintenant j'ai presque terminé, mais accordez votre attention solennelle, très solennelle, pendant que j'en viens à ma dernière tête. Si ce n'est pas ainsi, quoi alors ? Cher auditeur, je ne peux pas dire où tu es, mais où que tu sois dans cette salle, les yeux de mon cœur te cherchent, afin qu'après t'avoir vu, ils puissent pleurer sur toi. Ah ! Misérable, sans espérance, sans Christ, sans Dieu. Pour toi il n'y a pas de gaieté de Noël, car aucun enfant ne t'est né, aucun fils ne t'est donné. Triste est l'histoire des pauvres hommes et femmes qui, la semaine dernière, sont tombés morts dans nos rues à cause d'une faim cruelle et d'un froid glacial. Mais bien plus pitoyable est ton sort, bien plus terrible sera ta condition le jour où tu crieras une goutte d'eau pour rafraîchir ta langue brûlante, et elle te sera refusée. Quand tu chercheras la mort, une mort froide et sinistre, cherche-le comme un ami, et pourtant tu ne le trouveras pas. Car le feu de l'enfer ne te consumera pas, ni ses terreurs ne te dévoreront. Tu auras envie de mourir, mais tu t'attarderas dans la mort éternelle, mourant à chaque heure, sans jamais recevoir l'avantage tant convoité de la mort. Que te dirais-je ce matin ? Oh, maître, aidez-moi à dire un mot de saison, maintenant. Je t'en supplie, mon auditeur, si Christ n'est pas à toi ce matin, que Dieu l'Esprit t'aide à faire ce que je t'ordonne maintenant de faire. Tout d'abord, confessez vos péchés, ni dans mon oreille, ni dans l'oreille d'aucun homme vivant. Va dans ta chambre et confesse que tu es vil. Dis-lui que tu es un misérable perdu sans sa grâce souveraine. Mais ne pensez pas qu'il y ait un quelconque mérite dans la confession. Il n'y en a pas. Toute votre confession ne peut mériter le pardon, bien que Dieu ait promis de pardonner à l'homme qui confesse son péché et l'abandonne. Imaginez qu'un créancier ait un débiteur qui lui doit 1000 livres. Il l'invoque et lui dit, « Je demande mon argent. » Mais, dit l'autre, « Je ne te dois rien. » Cet homme sera arrêté et jeté en prison. Cependant, son créancier dit, « Je souhaite traiter avec miséricorde avec vous, faire une confession franche, et je vous pardonnerai toute la dette. » « Eh bien, dit l'homme, je reconnais que je vous dois 200 livres. »« Non, dit-il, cela ne fera pas. » « Eh bien, monsieur, j'avoue que je vous dois 500 livres, et peu à peu il en vient à avouer qu'il doit 1000. » « Y a-t-il quelque mérite à cette confession ? » « Non. Mais pourtant vous avez vu qu'aucun créancier ne songerait à pardonner une dette qui n'a pas été reconnue. » « C'est le moins que vous puissiez faire, de reconnaître votre péché. » Et bien qu'il n'y ait aucun mérite dans la confession, pourtant fidèle à son promis, Dieu vous pardonnera par le Christ. C'est un conseil, je vous prie de le prendre. Ne le jetez pas au vent, ne le laissez pas dès que vous sortez d'Exeter Hall. Emportez-le avec vous, et que ce jour devienne un jour de confession avec beaucoup d'entre vous. Mais ensuite, quand vous aurez fait une confession, je vous supplie de renoncer à vous-même. Abandonnez cette fantaisie illusoire. Vous avez vu le ver à soie, il filera, filera et filera, et puis il mourra là où il s'est filé udé. Et tes bonnes œuvres ne sont qu'un filage pour toi-même, une robe pour ton âme morte. Vous ne pouvez rien faire par vos meilleures prières, vos meilleures larmes ou vos meilleures œuvres pour mériter la vie éternelle. Eh bien, le chrétien converti à Dieu vous dira qu'il ne peut pas vivre une vie sainte par lui-même. Si le navire dans la mer ne peut pas se diriger correctement, pensez-vous que le bois qui se trouve dans la cour du charpentier peut se rassembler et se transformer en un navire, puis prendre la mer et naviguer vers l'Amérique ? Pourtant, c'est juste ce que vous imaginez. Le chrétien qui est l'ouvrage de Dieu ne peut rien faire, et pourtant vous pensez pouvoir faire quelque chose. Maintenant, abandonnez-vous. Dieu t'aide à mettre une marque noire à travers chaque idée de ce que tu peux faire. Puis, enfin, et je prie Dieu de vous aider ici mes chers auditeurs, quand vous aurez confessé votre péché et abandonné tout espoir de salut, allez à l'endroit où Jésus est mort dans l'agonie. Allez ensuite en méditation au calvaire. Là, il se bloque. C'est la croix du milieu de ces trois. Je pense que je le vois maintenant. Je vois son pauvre visage émacié, et son visage plus terni que celui de n'importe quel homme. Je vois les gouttes de sang perçant encore debout autour de ses tempes percées, marque de cette couronne d'épines rugueuses. Ah, je vois son corps nu à sa honte. Nous pouvons dire à tous ses os. Voyez-y ses mains déchirées par le fer brut, et ses pieds déchirés par les clous. Les ongles ont déchiré sa chair. Il y a maintenant non seulement le trou à travers lequel le clou a été enfoncé, mais le poids de son corps s'est enfoncé sur ses pieds, et je vois que le fer déchire sa chair. Et maintenant, le poids de son corps pèse sur ses bras, et les ongles y déchirent les nerfs tendres. Écoutez. La terre est effrayée. Il crie, « Eli, Eli, lama sabachthani ? Oh, pécheur, a-t-il déjà crié comme ça ? Dieu l'a abandonné, son Dieu a cessé de lui faire grâce. Son âme est extrêmement triste, jusqu'à la mort. Mais écoutez, encore une fois, il crie, « J'ai soif. Donnez-lui de l'eau, donne-lui de l'eau, vous, sainte femme, laissez-le boire. » Mais non, ces meurtriers le torturent. On lui mettait dans la bouche le vinaigre mêlé de fiel, l'amer de piquant, le vinaigre et le fiel. Enfin, écoute-le, pécheur, car voici ton espérance. Je le vois baisser sa tête horrible. Le roi des cieux meurt. Le Dieu qui a fait la terre est devenu un homme, et l'homme est sur le point d'expirer. Écoutez-le, il crie, c'est fini. Et il rend l'âme, l'expiation est terminée, le prix est payé, la rançon sanglante est comptée, le sacrifice est accepté. C'est fini, pécheur, croyez en Christ. Jette-toi sur lui, coulez ou nagez, prenez-le comme votre tout. Jette maintenant tes bras tremblants autour de ce corps ensanglanté. Asseyez-vous maintenant au pied de cette croix et sentez couler le précieux sang. Et tandis que vous sortez, chacun de vous dit dans son cœur, un ver coupable, faible et impuissant, sur les bras bienveillants de Christ je tombe, il est ma force et ma justice, mon Jésus et mon tout. Dieu vous accorde la grâce de le faire pour l'amour de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au siècle des siècles. Amen et Amen.